Cours de philosophie critique par le père Philippe à Saint-Jeudard le 29 novembre 1991.
Vous avez dit la dernière fois que la philosophie néoplatonicienne demeure dans le jugement, car elle ne distingue pas l'appréhension du jugement. On pourrait dire, elle demeure dans l'appréhension. Voyez, cette distinction que nous essayons de déterrer en critique, puisque la critique a un mode archéologique, alors on essaie de découvrir qu'est-ce qu'il y a de tout à fait fondamental et de premier dans l'ordre de ma connaissance humaine. Mais toutes les sciences modernes, toute la philosophie ancienne, tous ces gens qui pensent aujourd'hui, c'est intéressant. La plupart du temps, ils ne pensent pas. Ça, c'est Aristote qui dit ça, et saint Thomas reprend ça. Ils imaginent ceux qui se servent constamment d'ordinateur, qui remplacent leur connaissance. Est-ce qu'ils pensent? Ou est-ce qu'ils ordonnent? Simplement. Bon, c'est Dieu l'ordinateur, premier ordinateur. Que grâce à notre siècle, on a découvert le petit fils de Dieu. Donc l'ordinateur. Et comme les petits fils ressemblent plus à leur grand-père que les fils, on comprend très bien. Ils pensent admirablement. C'est toujours correct. C'est jamais juste, mais c'est toujours correct. C'est pas la vérité, mais c'est correct. C'est propre. Découvrir le fondement de la connaissance humaine. Donc découvrir l'appréhension. Qu'est-ce que c'est que l'appréhension? Des quantités de philosophie, on peut dire, toutes celles qui ne sont pas aristotéliciennes. rituels, ça c'est forcé, se sont rencontrés. Et ils ont fait quand même quelque chose de grand, ensemble. Alors, les néoplatoniciens ne font pas cette distinction. Alors, je peux dire d'une certaine manière que l'appréhension se ramène au jugement ou que le jugement se ramène à l'appréhension. On peut dire les deux. Et ce serait intéressant à voir. Dans le néoplatonisme, Platon demeure le point de départ. Qu'est-ce qui est au point de départ? La forme en soi. L'eidos en soi. Or, la forme, c'est l'appréhension qui saisit la forme. Cette forme existe en elle-même et par elle-même. Donc, en saisissant cette forme, je juge qu'elle existe. Et il n'y a pas de distinction entre appréhension et jugement chez Platon. Il y a intuition. On se souvient, on se remémore que les formes sont en nous, les formes en soi. Donc on pourrait dire, et ce serait plus juste, qu'en réalité, le jugement se ramène à l'appréhension. Chez Occam, c'est intéressant à voir, chez Occam, franciscain du XIVe siècle, Londres, l'Europe anglo-saxonne. Je veux pas dire que toute l'Europe anglo-saxonne est occamienne. Hein. L'Irlande serait furieuse. Donc c'est autre chose. Bon, alors, chez Occam, on a appréhension. Il est aristotélicien. Il retourne à Aristote. Il veut faire ça. Et c'est surtout par la logique, et surtout dans la logique, on a l'appréhension. L'appréhension qui va devenir jugement. Et comment l'appréhension devient jugement? Tout simplement en additionnant ceci et jugement d'existence. Comment le jugement d'existence se fait-il? J'additionne. Ça se fait par une addition. Donc, là on pourrait dire que l'appréhension est un élément du jugement. Et puis, plusieurs éléments font le jugement. C'est pas le jugement qui est dans l'appréhension, c'est l'accumulation d'appréhension qui donne le jugement. Et le jugement représente un tout. Et l'appréhension représente un élément. Partie. Le tout est plus que la partie. Il contient les parties. Donc l'appréhension se ramène au jugement. Vous voyez, ça fait deux synthèses tout à fait différentes. Et des deux côtés, il n'y a plus véritable distinction de l'appréhension et du jugement. Au point de vue critique, c'est très intéressant à voir comment, dans le néoplatonisme, la forme, dans tout le néoplatonisme, c'est comme ça, la forme est saisie intuitivement, et donc l'appréhension implique un jugement. Métaphysique. Le jugement est une somme d'appréhension. C'est un tout. On additionne des éléments et on a un tout. Et le jugement est un tout. Quantitatif. Comparativement à l'élément. Ce qui veut dire que le jugement ne rejoint jamais la réalité. l'humain demeure dans le vécu. L'appréhension est le premier vécu. Et le chemin est un revécu. Tout simplement. La somme d'appréhension qui forme le jugement. Et donc, je n'ai plus aucun contact de l'intelligence avec la réalité telle qu'elle est. Et c'est pour ça que Occam considère que la réalité telle qu'elle est, je ne la saisis qu'en fonction de mes sens. Les sensations. Sensations. Et par les sensations, je rejoins le réel. Le chemin dans ceci est implique les diverses sensations qui me permettent de rejoindre le réel. L'appréhension étant abstraite, j'accumule les sensations qui viennent s'ajouter à l'appréhension. Et par là, je peux juger. Le réel, mais le réel comme tel, le réel existant, échappe à ma connaissance. Vous voyez, comme je suis proche de Kant, le noumène, la réalité échappe à ma connaissance. C'est ça qui est intéressant à voir. Donc, il y a d'une part le néoplatonisme, d'autre part Occam et Kant. Et des deux côtés, le réel existant échappe à ma connaissance. Il ne peut plus y avoir de métaphysique, puisque la métaphysique regarde le réel existant, ce qui est comme tel. Des deux côtés, je reste dans le ceci. Le ceci qui est les formes en soi. Ou le ceci qui est tout simplement la réalité, qui est le mur au-delà de tout ce que les sens peuvent saisir. Parce que les sensations ne saisissent pas l'être. Si le jugement d'existence, c'est l'appréhension plus les sensations, je ne saisis pas l'être. Je saisis des déterminations et je reste dans les déterminations, l'accumulation des déterminations. Maintenant, nous allons continuer notre petite découverte. Méthode archéologique. Foucault. C'est vrai pour l'archéologie. Je suis tout à fait d'accord que l'archéologie a une méthode tout à fait particulière. Lisez un traité d'archéologie bien fait. Quand vous connaissez un véritable archéologue, essayez de raisonner avec lui. Vous verrez que c'est la critique. Le père Devaux, que je connaissais bien, qui était un excellent archéologue, était à ce point de vue-là extrêmement intéressant. Ce qui montrait comment on arrivait à des couches successives. Et quand vous voyez Jérusalem, quoi, la ville de Jérusalem, on n'est pas du tout au niveau où Jésus a connu Jérusalem. Quant à Jérusalem, on dit béatement, je marche là où Jésus a marché, mais pas du tout, ma pauvre dame. Pas du tout. C'est pas ça du tout. Le Christ a marché, mais il faut creuser au moins 4 mètres ou 5 mètres. Ah, il y a tout ça. Toute la poussière s'est accumulée, toutes les ruines sont accumulées. Et c'est vrai, pour retrouver le lieu où le Christ a marché, il faut creuser. Et vous n'êtes jamais très bien, très sûr de retrouver ça. C'est le point de vue de l'archéologue, et on comprend que c'est passionnant l'archéologie. J'ai retrouvé quelque chose de primitif, de retrouver le lieu. Alors, quand une civilisation est fatiguée, elle ne fait plus que de l'archéologie.
seul c'est le signe d'une civilisation qui est tout le temps attitude de repliement. Parce qu'elle considère que tout ce qui a été fait avant est beaucoup mieux que ce qui se fait maintenant. Ce qui est un peu juste. Quand vous voyez les ruines à Éphèse, vous dites c'est extraordinaire. Quand vous voyez à Jérusalem, là c'est autre chose parce que c'est moins du religieux. On voudrait bien retrouver le lieu, les pas du Christ. Alors, je prends cette méthode archéologique. J'ai l'expérience, là je touche le sol, l'expérience du ceci est. Ce petit caillou, il existe. Moi-même, petit caillou dans l'univers, j'existe. Je suis un peu de poussière de tous les astres et de toutes les galaxies. J'existe. Je dis ça, j'existe. Ce jugement d'existence est-il vraiment ce qu'il y a de plus fondamental? Je dis non. Il ne peut pas. Pourquoi? Il est complexe. Et là, j'aurai du reste Occam et les néoplatoniciens qui m'obligerait de les dépasser l'un et l'autre. Or, ils sont en 7 contre 1, en opposition. Faut-il mieux être néoplatonicien? Faut-il mieux être occamien? Occam, c'est Aristote. Oui, un faux Aristote. C'est l'Aristote d'Aubanque. C'est l'Aristote des Sorbonnards, Occam. Tandis que le véritable Aristote, Thomas d'Aquin, on ne va pas l'accepter, celui-là. C'est très curieux. Il y a deux Aristotes. Puis il y a les néoplatoniciens. Alors, je veux savoir. Je ne cherche pas Aristote, je cherche la vérité. Aristote est mon ami parce qu'il cherche la vérité. Tous ceux qui cherchent la vérité sont mes amis. C'est ce qu'il faut se dire, tout le temps, tout le temps. Quand quelqu'un cherche la vérité, il est votre ami. Alors, je vois que ce que je peux immédiatement toucher, c'est le jugement d'existence. Ceci est, je suis. Là, je crois que nous pouvons tous, ayant fait un tout petit peu de métaphysique, de philosophie première, reconnaître que ceci est et je suis, c'est tout à fait fondamental. Mais est-ce vraiment fondamental au niveau critique? Ou dois-je aller plus loin? Découvrir ce qui est fondamental au niveau critique. C'est ça qui est intéressant à se poser la question. Bien, je dis, première constatation, que ceci implique une dualité. Le jugement, ceci. Ceci est où je suis. Implique une dualité dans le langage. Ça, tout le monde est obligé de le reconnaître. Or, le langage est un signe de ma pensée. Et ma pensée, dans la mesure où elle est une vraie pensée, atteint le réel. Elle touche le réel. Je dois essayer de chercher qu'est-ce qu'il y a de premier dans ma pensée. Le langage me montre qu'il y a une dualité. Donc, je dois creuser. C'est un signe qui me montre, qui m'indique que je dois creuser. D'autre part, je peux dire aussi que quand je réfléchis sur le jugement, je vois que le jugement ne peut pas être premier, puisqu'il implique affirmation et négation. Donc, le jugement implique une dualité. Il y a donc quelque chose qui est antérieur au jugement. Mais qu'est-ce qui est antérieur au jugement? Je fais appel ici encore au langage, puisque c'est un signe. Je vois qu'il y a des termes qui sont simples. Blanc, homme, animal. Ce sont des termes simples. Animal n'est ni vrai ni faux. Homme n'est ni vrai ni faux. Blanc n'est ni vrai ni faux. Tandis que le jugement est vrai. ou faux. Je vois donc là quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que le jugement implique vérité ou erreur. Il y a quelque chose qui est saisi antérieurement au jugement, qui est au-delà de la vérité. Il y a donc une connaissance qui est innocente. L'innocent, c'est celui qui n'est ni vrai ni faux. C'est la qualité de l'innocent, vous savez bien. C'est un petit innocent. Quand vous dites de quelqu'un, c'est un petit innocent. Il n'a jamais dit quelque chose de faux, parce qu'il n'a jamais dit quelque chose de vrai. Donc, il a l'innocence. Il est au-delà du vrai et du faux. Je vois que ma connaissance est capable de dire, de connaître animal, de connaître blanc, de connaître homme. Et je pourrais multiplier ça. Je pourrais voir tous les dix prédicaments qui tous représentent quelque chose de simple. Donc c'est quelque chose de premier, ça. L'au-delà de la vérité. La vérité est une perfection, mon intelligent. C'est mon bien. Il y a une simplicité. Voyez, nous retrouvons le problème du simple et du parfait. Et il y a une connaissance simple qui n'est pas parfaite, puisque elle est au-delà du vrai et du faux. La simplicité de Dieu implique la vérité. Mais la simplicité élémentaire de ma connaissance est au-delà de la vérité. J'ai une connaissance que je cherche à comprendre et que le langage me montre. Je peux dire blanc, je peux dire homme, je peux dire animal. Et donc je suis en face d'une connaissance qui a quelque chose de tout à fait particulier et je reconnais que animal, homme, ce n'est pas ceci. C'est différent du ceci. C'est différent de « est ». Ça, c'est très important à noter. Je vois donc que je ne peux pas dire que le jugement, c'est l'addition de ces termes simples. Parce que ces termes simples n'explique pas ceci est, je suis. Il y a donc un abîme entre les deux. Je ne peux pas passer de l'un à l'autre. Ça aussi, je peux le constater. Je ne peux absolument pas, à partir de l'accumulation d'animal et blanc, arriver à ceci, arriver à Pierre. Pierre existe. Pierre est, ceci est, je suis. Quelle différence? C'est que animal, blanc, homme signifie simplement des quiddités, signifie quelque chose de simple. À partir de mon expérience. Et que ceci essence, un mode abstrait et universel. Je peux dire le blanc du mur. Le mur est blanc. Ce visage est blanc. Cette feuille de papier est blanche. Quelque chose d'universel.
Abstraire blancheur, mettre cette détermination
aussi décliné, mais je n'abstrais plus, je suis dans le concret. L'abstrait appelle l'abstrait, le concret reste directement lié au réel et me permet de découvrir une vérité, la vérité. Ceci est dans ce jugement d'existence. C'est vrai ou ce n'est pas vrai, selon que c'est conforme à la réalité existante ou pas conforme. Tandis que l'abstrait appelle l'abstrait. Je passe de blanc à blancheur. Donc j'ai là deux types de connaissances. Je peux même aller plus loin. Je crois qu'il faut aller plus loin. Je vois que ce type de connaissance, blanc, blancheur, implique un mode tout à fait particulier d'assimilation. Mon intelligence saisit blanc. Et pour mieux saisir blanc, elle veut saisir blancheur. Parce que mon intelligence, en s'y sent blanc, en s'y sent animal, veut aller le plus loin possible dans la connaissance de cette réalité qui n'est qu'une forme, qu'elle existe, qu'elle n'existe pas. Je ne regarde pas. Une quidité. Elle a une signification, mais pas plus. Je ne m'occupe pas du reste. Et parce que je ne m'occupe pas du reste, je veux formaliser cette signification. La signification peut se formaliser. Parce que la quidité, blancheur, la quidité peut impliquer deux niveaux. D'intelligibilité. Un niveau premier, universel, mais premier parce que restant encore en liaison directe avec l'expérience. Blanc reste en liaison directe avec l'expérience, le blanc du mur. Tandis que blancheur n'est plus en liaison directe avec l'expérience. Je n'ai pas l'expérience de la blancheur. Je constate tout cela. Et je dois le constater pour essayer de comprendre ensuite le lien qui existe entre ces deux formes de pensée. Donc voyez bien, d'un côté, je vois que dans la connaissance du blanc, dans la connaissance de homme, dans la connaissance de animal, je suis en présence d'une connaissance simple, abstraite, pour assimiler. J'appréhende ces réalités, je me les assimile. Ce que Sartre ne supporte pas. Il y a dans Situation un petit passage, un petit article de Sartre là-dessus, qui est très intéressant. J'ai horreur, dit Sartre, de cette connaissance d'assimilation. Comme si on mangeait les réalités. Pas du tout. Quand je veux connaître l'arbre, je ne le mange pas, mais je l'embrasse, dit-il. Je ne sais pas si on ne connaît pas mieux en mangeant qu'en embrassant. Il oppose les deux. Il a horreur de ça. Parce qu'il ne voit que cette appréhension comme assimilation. Il oublie que cette assimilation est une assimilation intentionnelle. Ah. Je vois que cette connaissance a ceci de très particulier. Cette appréhension est une appréhension qui implique une assimilation intentionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire ? l'existentialisme reste à l'écorce. C'est vrai. Les apparences, ce que je vois, ce que je touche, ce que je sens, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est l'intelligence qui saisit ce qu'est la réalité. Ce qu'est cette réalité que je touche, que je sens. Je dois donc dépasser cet aspect existentialiste, grossier, descriptif, pour que mon intelligence saisisse et appréhende en se l'assimilant quelque chose qui demeure, quelque chose qui est la quintessence de la réalité, qui fait que cette réalité a telle signification qu'elle signifie cela, homme. Dans Pierre, il y a homme, et c'est homme qui m'intéresse, parce que Pierre, c'est corruptible, homme ne l'est pas. Et donc l'intelligence peut saisir